DW. Émission spéciale.
17h, antenne universelle, 18h, ici en Allemagne, d'où nous émettons. Bienvenue à suivre cette édition spéciale. À la présentation, je suis Zanem Netizaidi. Au sommaire, au Mali, le général Abdoulaye Maïga, nommé premier ministre des transitions. Il succède à Choguel Maïga, révoqué la veille avec ce gouvernement. On vous propose tout à l'heure le portrait du général Abdoulaye Maïga. Au Burkina Faso, le régime militaire a décrété les gels pour 6 mois renouvelables des avions de plus de 100 personnes pour financement du terrorisme. Parmi les centaines de personnes visées figure l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. À suivre également dans cette édition, une édition spéciale sur les initiatives locales de femmes déplacées en République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, au Mali, on l'appelle monsieur, je répète, en raison de son goût prononcé pour la répétition des phrases à 3 reprises pour des besoins de compréhension. Le général des divisions Abdoulaye Maïga succède à Choguel Kokala Maïga à la primature. Ses proches du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assurait le poste de premier ministre par intérim depuis le 21 août 2022. Les nouveaux chefs du gouvernement étaient en même temps ministres d'État et porte-parole du gouvernement. Son portrait avec Mamadou Kane, notre correspondant à Bamako.
Au Mali, on l'appelle monsieur, je répète, en raison de son goût prononcé pour la répétition des phrases à 3 reprises pour des besoins de compréhension. Le colonel Abdoulaye Maïga, devenu durant cette transition général de division, ne fait pas partie des 5 colonels qui ont renversé le régime d'Ibeka en août 2020. Le nouveau locataire de la primature s'est révélé lors de son passage à la tribune des Nations Unies en septembre 2022. Abdoulaye Maïga avait alors sévèrement critiqué les autorités françaises. Celui-ci avait aussi remis en cause la nationalité de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum et ce qu'il qualifie de manœuvre pour conserver le pouvoir pour lui et son clan, pour parler du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le nouveau chef du gouvernement malien de 43 ans, qui garde le portefeuille du ministère de l'Intérieur, s'est rendu incontournable auprès du général d'armée Assimi Goïta, au point de devenir un de ses plus proches collaborateurs. Selon nombre d'observateurs, avec la création d'un ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, l'organisation de la présidentielle en 2025 devient une priorité pour les autorités de la transition. Mahamadou Kana, Bamako pour la Deutsche Welle.
Merci beaucoup, Mamadou Kane. C'était ça, le portrait du général des divisions, Abdoulaye Maïga, qui succède à Choguel Kokala Maïga. Le régime militaire du Burkina Faso a décrété le gel pour 6 mois renouvelable des avoirs de plus de 100 personnes, dont l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et deux de groupes djihadistes pour financement du terrorisme. La mesure concerne 113 personnes physiques et des organisations terroristes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique au Grand Sahara, responsable d'actes djihadistes au Burkina Faso, selon un arrêté daté de mardi et signé par le ministre de l'Économie et des Finances Aboubakar Nakanabo. Parmi la centaine de personnes visées figure l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba en exil au Togo. Lieutenant-colonel arrivé au pouvoir en janvier 2022 par un coup d'État, il avait été renversé en septembre de la même année par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours à la tête du régime aujourd'hui. Le président kenyan William Ruto a annoncé aujourd'hui l'annulation des partenariats avec le groupe indien Adani pour la modernisation de l'aéroport international de Nairobi et du réseau électrique national, évoquant de la corruption au lendemain de l'inculpation aux États-Unis de Gautam Adani, patron du groupe Adani. Les négociations en cours autour de l'aéroport de Nairobi et l'accord conclu en octobre avec la compagnie kenyane des transitions électriques, des sociétés publiques stratégiques pour l'économie de ces pays d'Afrique de l'Est étaient vivement critiquées, notamment pour leur opacité. En RDC, un nouveau front s'est constitué contre le projet de révision de la Constitution. On y retrouve l'ancien président du pays, Joseph Kabila, et sa plateforme Le Front commun pour le Congo, FCC. L'ancien premier ministre est désormais opposant, Augustin Matata Ponyo. Des figures de l'opposition comme Martin Fayoulou et Moïse Katumbi sont aussi dans la même dynamique. Leurs représentants ont signé une déclaration commune ce 20 novembre 2024 à Kinshasa, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La Cour pénale internationale a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les mandats d'arrêt ont été classés secrets afin de protéger les témoins et garantir la conduite des enquêtes, a déclaré la Cour.
DW.
On vous le disait dans les titres, à présent, il est temps de suivre l'émission spéciale sur les différentes initiatives des femmes déplacées en République démocratique du Congo. Une émission qui vous sera présentée par Bob Barry.
DW, émission spéciale.
Bonjour et ravi de vous accueillir dans cette émission spéciale. Deux blocs pour vous entretenir. D'abord sur une initiative de femmes réfugiées dans l'est de la République démocratique du Congo et ensuite sur la question très sensible de la restitution de biens et vestiges plus d'un siècle plus tard aux anciennes colonies.
Vous écoutez la DW.
Cela se passe à Beni, dans le Nord Kivu, où la récolte de maïs a été lancée à la mi-novembre. Notre correspondant Pascal Mouindo a accompagné un groupe de femmes réfugiées qui se sont mises en groupe pour cultiver du maïs. Si au départ, chacune cultivait son petit jardin, ces femmes déplacées ont maintenant 7 hectares en commun sur lesquels elles ont planté du maïs à Mavivi Njité. Une localité située entre la ville de Beni et Oicha, toujours dans l'est de la RDC. À l'heure de la récolte, ces femmes rurales sont satisfaites de leurs initiatives qui va améliorer sensiblement leur vie et booster l'économie locale. Notre correspondant à Beni a suivi ces femmes le jour de la première récolte de maïs. Suivez donc ce grand reportage de Pascal Mouindo Mapenzi.
Ce jour est particulier pour ces femmes déplacées. Elles sont heureuses de produire une si grande quantité de maïs. Dans l'agglomération de Mavivi Njité, à quelques kilomètres du quartier général La Monisco, la mission de l'ONU au Congo, à Beni, ces femmes ont cultivé un grand champ de maïs. 7 hectares de maïs dont la première récolte est lancée ce jour. Edwige Kangiti, chef d'équipe, est fier d'avoir réussi à mobiliser les femmes à chaque étape, du labour à la récolte.
Je suis très émue aujourd'hui, très heureuse. Quand nous avons commencé, c'était comme une aventure. On n'imaginait pas une si grande récolte. Nous avons nous-mêmes sémé, nous avons sarclé. C'était parfois pénible, mais nous avons réussi. Voilà le fruit de notre sueur, des sacs de maïs.
Denise Massika est aussi satisfaite de la récolte d'aujourd'hui. Après avoir tout abandonné dans son village en raison de la sécurité il y a 4 ans, le sourire de Denise réapparaît.
C'est une joie immense. Regarde ce vaste champ de maïs. Les femmes sont toutes heureuses. Ceux qui viennent acheter apprécient notre travail. On aura de l'argent, on mangera du maïs grillé et on fera de la bouillie aux enfants. Ils auront enfin une bonne santé. Notre vie aussi va s'améliorer. Ma famille souffrait beaucoup. Je cultivais des petits jardins et plus tard, une amie m'a conseillé de m'associer aux autres femmes et voici le résultat.
Le travail que ces femmes ont déployé dans leur exploitation du maïs a renforcé la résilience au sein de leur groupe. Françoise Matabiche ne se plaint donc pas pour avoir couvert des longues distances à pied pour rejoindre les autres femmes au champ.
J'étais très solitaire à la maison. Je pensais à mes biens au village, mon mari avait 4 hectares de cacao, mais on a tout abandonné suite à l'insécurité. On a perdu beaucoup de gens au village et nos maisons ont été incendiées. J'en souffrais beaucoup, mais depuis que je suis avec les autres, chaque mardi et vendredi de la semaine, je fais 5 km à pied pour les rejoindre au champ. Je ne veux pas rater les occasions d'être ensemble. On se raconte des histoires en travaillant, on se rappelle la vie dans nos villages. Travailler à côté des autres m'a fait oublier le passé et tout ce que j'avais perdu. Maintenant, mon cœur est apaisé.
Ces enfants ont accompagné leur mère au champ. Ils sont contents de l'exploit que leur mère vient de réaliser. Mais ces enfants, pourtant en âge scolaire, n'ont pas eu la chance de reprendre l'école en ville après l'abandon de leur village. Leurs mères sont des déplacés internes, chassés de leur champ autour de Beni par l'insécurité créée par des attaques des groupes armés. Grâce à leur coopération, ces femmes tentent de répondre aux besoins de leur famille. C'est pour cela qu'elles ont créé une coopérative agricole. Elles veulent lutter contre la famine et être plus indépendantes. Selon Edwige Kangiti, la chef d'équipe qui planifiait les horaires pour aller au champ, au départ, chaque femme déplacée entretenait de petits jardins dans son lieu de refuge. Depuis 2022, elles ont été regroupées dans des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est grâce aux petites épargnes qu'elles ont pris en location un grand champ où elles cultivent le maïs. Dans un entretien avec la Deutsche Welle, Edwige Kangiti s'est réjouie de cette coopération qui a aussi créé une cohésion entre les femmes déplacées.
Nous étions toutes des déplacées vivant dans des camps et dans des familles d'accueil. Une association locale nous a récupérés et nous ont attribué des petits jardins et de la semence. À chaque récolte, ils nous ont appris à épargner une partie car nous étions déjà organisés en association d'épargne et de crédit. C'est ainsi que, jour après jour, nous avons économisé de l'argent. Ils nous ont constitué à coopérative. Chacune de nous a amené sa contribution pour la location de la plantation, les labours et l'achat de la semence. Voilà comment ces maïs ont été plantés.
Quel est l'impact de cette récolte dans vos familles?
C'est avant tout une réussite lorsque nous récoltons et que nous avons des bénéfices. C'est un plus dans nos familles. Ces maïs vont nourrir nos enfants et nous allons vendre une autre partie pour acheter des habits, de la nourriture et des médicaments à nos enfants. Aussi, nous ferons de la bouillie avec la farine de maïs. La bouillie de maïs est très nutritive et renforce l'immunité des enfants, surtout ceux de moins de 5 ans. Certaines d'entre nous ont perdu leur mari. Maintenant, elles sont en mesure de supporter leur famille, c'est-à-dire faire grandir les enfants, les nourrir, les éduquer. Aujourd'hui, nous ne perdons plus de temps à faire des commérages au quartier. Nous parlons maintenant de l'entrepreneuriat, de nos champs, de nos ventes et de nos projets à venir. Nous nous encourageons mutuellement et nous ne voulons plus vivre de l'aide humanitaire qui est loin d'être une solution durable.
L'initiative de regrouper ces femmes déplacées est venue de l'Organisation des jeunes chrétiens pour le développement, une association spécialisée dans les activités agropastorales à Beni. Elle a su regrouper 4000 femmes réparties dans une centaine d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Pour Isaac Kavalami, membre de cette association, celle-ci milite pour la sécurité alimentaire des déplacés internes.
Nous avons observé des cas où les mamans faisaient des voyages 30 km pour aller chercher là où les humanitaires vont faire des identifications. Et on a eu des mamans qui sont décédées, pas des accidents, pour chercher seulement les zones où les interventions humanitaires seront réalisées. Et nous avons dit ça, c'est une dépendance totale. C'est pour seulement soulager. Mais il fallait que nous puissions les amener à comprendre qu'on peut vivre, ça dépend des aides humanitaires. Toutes les journées qu'elles faisaient en train de démarcher, les ONG profitaient des aides humanitaires, les journées-là sont faites au chat.
De nombreux revendeurs n'ont pas attendu que la marchandise soit évacuée sur les différents marchés dans des centres urbains de la région. Ils sont venus jusqu'à la plantation pour s'approvisionner et ils vont à leur tour revendre ces maïs aux consommateurs. Zulfat Kavira est venue de la ville de Beni pour se ravitailler et elle accède à sa marchandise à un prix négocié, témoigne la commerçante.
J'ai été alertée deux jours avant qu'il y aurait récolte de maïs ici. C'est ainsi que je suis venue moi-même jusqu'ici et j'ai dû louer une camionnette pour transporter les 10 sacs de maïs que je viens d'acheter. Je crois vraiment que je vais revenir dès que j'aurai vendu cela aux petits détaillants au marché central et aux jeunes qui grillent les maïs dans les carrefours et le long des avenues. C'est vraiment une bonne opportunité. C'est du business.
Ces agricultrices espèrent produire au moins 17 tonnes de maïs sur 7 hectares cultivés. Or, sur le marché local, une tonne de maïs se négocie entre 400 et 450 dollars américains. Elles espèrent donc tirer de cette vente près de 7000 dollars américains, alors que le coût de production, lui, était de 3000 dollars américains. L'économiste Nestor Mukoti se réjouit de la vision de ces femmes rurales. Il est convaincu que cette production de maïs, résultat de la coopération entre des femmes déplacées internes, va sûrement élever les niveaux de revenus dans leur ménage et créer de l'autosuffisance alimentaire.
Lorsque elles étaient seules, elles faisaient des jardins et avec ces jardins, elles avaient des revenus, mais ces revenus étaient un peu minimes. Alors, à se réunissant, vous voyez une grande production. Et cela aura des pactes parce que le revenu de ces femmes-là va augmenter. Ces mamans, nous les considérons déjà comme des grands producteurs de maïs. Nous allons demander maintenant à ces femmes d'avoir d'autres activités de formation, de capacitation dans le cadre de la gestion. Parce que produire, c'est une chose, mais gérer, c'est encore une autre.
Après la récolte du maïs, les femmes songent désormais à une autre culture. Un pourcentage de l'argent gagné sera utilisé pour une autre récolte. Entre-temps, chacune recevra sa part du bénéfice collectif. La jeune Georgine Kakombe compte ainsi se lancer dans les commerces d'habits pour enfants.
Je suis maintenant autonome et comme les fêtes de fin d'année approchent, je vais prendre de l'argent qu'on va me donner pour aller acheter en ville des habits de fête pour les enfants et revenir les vendre ici. Je suis sûre que ça sera une bonne affaire. Ma vie va changer et les gens vont le constater.
Un changement de vie, c'est l'image du bonheur de ces femmes désormais unies autour de Nid. Idéal commun.
DW. L'Afrique au cœur de l'Europe.
Vous êtes toujours à l'écoute de la DW Afrique. La seconde partie de notre édition spéciale nous conduit dans les musées européens dont certains détiennent des objets culturels datant de la période coloniale. Mais il n'y a pas que des objets, il y a aussi des vestiges anthropobiologiques. C'est ce que certains États européens désignent avec l'expression « reste humain ». Nous retrouvons Frusus Kenom qui en parle avec des experts culturels africains.
DW.
Les appels sont de plus en plus forts en Afrique pour une reconnaissance des crimes coloniaux, de même que les exigences d'un retour des objets culturels et autres vestiges emmenés en Europe dans des conditions irrégulières durant la période coloniale. En 2021, la France a ainsi rendu au Bénin 26 œuvres culturelles. D'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique ou encore le Royaume-Uni se sont engagés dans cette même dynamique. En décembre 2022, l'Allemagne a rendu au Nigeria 20 objets faisant partie des bronzes de Benin City après 125 ans passés à l'étranger. Dans cette démarche, des experts scientifiques des différents pays concernés sont associés. C'est dans ce cadre que s'inscrit un voyage scientifique à Berlin et Leipzig, effectué du 3 au 9 novembre 2024 par 11 experts africains. Ils étaient invités par le ministère allemand des Affaires étrangères. L'objectif étant de leur donner accès à certaines informations concernant la restitution et un partage d'expériences en matière d'entretien ou de sauvegarde des 10 objets. J'ai le privilège de rencontrer quelques membres de cette délégation. Ils sont 4 autour de moi pour revenir sur certains aspects spécifiques du thème de la restitution et du travail mémoriel du passé colonial. Docteur Christella Kwizera, sociologue originaire du Burundi, Mariam Modupe Chitou, originaire du Bénin, directrice académique à l'École du patrimoine africain, Docteur Hugues Heumen Tchana, directeur du Musée national du Cameroun, et Docteur Adama Ayikwe, directeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture du Togo. D'abord, Adama Ayikwe, que vous a apporté ce voyage en Allemagne sur la question du retour en Afrique dans vos pays respectifs d'objets pillés ou volés lors de la campagne coloniale?
Je peux dire que ce voyage a été initiatique. On a eu la théorie au pays, on attendait des choses. Maintenant, c'est comme on a fait le terrain. On a rencontré des gens, on a visité les musées, on a eu un certain nombre d'informations qui nous réconfortent dans un certain nombre de positions. Et je crois que ce voyage, c'est un grand plus. Et ça va faire avancer les choses dans le bon sens du côté du Togo, parce que la pression est assez forte. Depuis que les 26 objets ont atterri au niveau de Cotonou, les Togolais se demandent, mais finalement, et nous et...
Alors, M. Tiana, vous êtes directeur du Musée national du Cameroun, je l'ai rappelé tantôt. On sait qu'il y a des contacts entre le Cameroun et l'Allemagne. Il y a un comité qui est mis en place et des choses qui se font. Qu'est-ce que ce voyage vous a permis de faire pour faire avancer les activités, les contacts entre le Cameroun et l'Allemagne?
En fait, les premières rencontres, nous avons constaté que l'Allemagne met beaucoup, ces derniers temps, met beaucoup plus en avant la question des restitutions des restes humains. Et même dans ces restitutions des restes humains, il y a des thèmes qui sont plus acceptables. Et human remains, ossements humains, bon, ça dévalorise davantage ces questions. Est-ce qu'on va restituer les restes humains à un musée? Chaque fois qu'ils me posent les questions, du moins pour le Cameroun ou pour le Musée national, les restes humains ne sont pas les objets des musées.
Mais quelle aurait dû être la démarche de l'Allemagne sur ce point-là précisément?
Comment est-ce que vous aimeriez qu'on traite ces restes humains?
Selon les rites et les coutumes
de chaque communauté.
Et pas les restituer comme si c'était des objets, c'est votre problème.
Ouais. Et nous avons constaté aussi, l'Allemagne investit beaucoup sur le traitement de la mémoire. Il y a les gros investissements, musées juifs, et les mémoriels. Ils respectent leur passé. Nous aimerions aussi qu'ils mettent les mêmes emphases, le même respect, les mêmes niveaux de considération pour la reconstruction de leur passé. Parce qu'il va de la reconstruction de notre mémoire collective. Il y a une question de dignité. Ce n'est pas des objets de musée, ouais, un peu. Nous avons aussi, au courant de ce jeu aussi, constaté qu'il y a une certaine évolution. Ça fait 6 mois qu'ils ont mis sur pied une agence de coopération muséale pour canaliser toute la coopération muséale entre les musées allemands et les pays africains. C'est une avancée.
Sur la question de la restitution des restes humains, Madame Kwizera, sociologue burundaise, Monsieur Tiana semble ne pas être d'accord avec la façon dont l'Allemagne évoque la question des restes humains. Quelle est votre approche là-dessus?
Merci beaucoup. Je suis d'avis de mon collègue Tiana dans la mesure où là on a l'impression que c'est le fonctionnement de l'État allemand qui va être accolé à toute l'Afrique en dépit des particularités même au sein du continent. Parce que le Burundi c'est l'Afrique de l'Est, le Cameroun centre-est, le Cameroun centre et Bénin, Togo c'est à l'Ouest. Donc il y a autant de peuples que de rites, que de pensées, que de pratiques. Donc il aurait été intéressant déjà en amont de convoquer les personnes issues de ces cultures-là et de ces peuples et d'avoir cette conversation-là. Donc là, on a l'impression, malgré leur bonne volonté, et on le salue, nous tous ici, on est d'accord, il serait intéressant que maintenant, qu'il y a des gens en face, qu'on les sollicite pas juste pour venir s'asseoir, écouter la leçon quelque part, mais de nous demander clairement.
Est-ce que, Monsieur Tiana, vous espérez que il y aura une amélioration de la stratégie, pas seulement de l'Allemagne, mais d'une manière générale des anciennes puissances coloniales quant à l'approche de cette question? Madame Kwizera est aussi un peu insatisfaite de la terminologie même de restes humains.
En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent ça trop simplement. Il y a certaines communautés, par exemple, si je prends par exemple au Cameroun, la communauté Mabi, où le King Maïsé, le chef a été tué, son crâne emporté en Allemagne. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais fait de deuil. Il y a des communautés qui n'ont pas fait de deuil. Venez dire aux gens que venez prendre vous rentrer avec, c'est trop facile, c'est trop simpliste. Ça. Ce n'est même pas, c'est un, respectons-nous. Pour moi, c'est simple. On a vos restes humains. Est-ce que c'est documenté? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour remettre à ces peuples la dignité? Aussi simple que ça.
Mariam Moudou-Péchitou, vous êtes du Bénin, vous êtes à la direction des activités académiques de l'École du patrimoine africain. Alors, au-delà de cette demande-là, est-ce que vous voyez une stratégie très claire de la part des pays africains qui revendiquent le retour de différents objets, de différents éléments dans leur pays? Est-ce qu'il y a une stratégie?
À mon avis, chaque pays se bat à sa façon. Les résultats seraient plus visibles si les pays africains pouvaient se mettre ensemble, peut-être par zone géographique, et aller en toute collégialité, que ces pays défendent cette cause-là. Je sais que la CEDEAO a commencé. Quand on est nombreux, la voix porte plus. Et les résultats pourraient être beaucoup plus visibles, beaucoup plus tangible si on travaille ensemble.
Vous avez, durant votre séjour en Allemagne, visité des musées et j'ai entendu dire tout à l'heure que voilà, il y a des grands musées, des grandes institutions. Est-ce que vous en êtes jaloux, Adama Ayikwe, directeur du patrimoine au Togo? Vous en êtes jaloux, vous avez envie de voir une institution comme le Humboldt Forum également au Togo ou bien à Lomé ou à Nairo?
Je reconnais qu'ils ont les moyens, mais le modèle... Leur modèle de musée doit être tué. Il faudrait qu'on ait des musées à l'africaine. La réflexion continue. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un musée comme si on était dans un aérogare. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un musée comme si on était dans un aéroport où tout est nickel, tout est flambant, tout scintille. Je crois que le modèle de musée africain, ce n'est pas ça. Par exemple, à Nairo, dans les trois royaumes, ils ont des biens. Qu'ils valorisent, bon, les trois royaumes valorisent dans leur palais, à leur niveau. Donc, on peut s'inspirer de ces modèles-là pour avoir une vision, pour voir grand dans ce sens-là, pour qu'on ne soit plus complexé par ce qu'on voit dans les musées occidentaux. Il faudrait quand même que ceux-ci viennent s'inspirer de nos exemples, de notre expérience. Voilà ce que je peux dire.
Monsieur Tiana, directeur du musée du Cameroun.
Chaque fois que nous venons ici, on nous pose la question, quelles sont les conditions de conseil? Est-ce que sur... Vous garantissez les conditions de conservation. Je vais dire, c'est une vision passéiste, européocentriste. Est-ce que lorsque nos objets partaient d'Afrique étaient dans les mauvais états de conservation?
Mariam Chito Mondoupé, sur la question, quelle que soit la personne qui la pose, avez-vous les conditions qu'il faut pour conserver ces objets? Est-ce que ce n'est pas une question légitime? Puisqu'on assiste à des musées qui prennent feu en Afrique, ça s'est passé en République démocratique du Congo, à des objets volés, ça s'est passé au Bénin.
Les catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, ça se passe partout. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus exposés en Afrique parce qu'on n'a pas autant de moyens que les pays occidentaux. Mais nous nous formons pour acquérir les compétences pour devenir aussi des institutions ou des personnes compétentes qui travaillent à sécuriser notre patrimoine culturel. Donc nous y travaillons et nous espérons que ce genre d'occurrence dans les vols, le trafic illicite des biens culturels, les incendies, les conditions de conservation qui parfois laissent à désirer, on y travaille et l'École du patrimoine africain se met avec les autres institutions, travaillent ensemble pour que notre patrimoine retrouve ses lettres de noblesse et que nos musées, même s'ils ne sont pas comme les musées étincelants qu'on a visités pendant ces semaines, soient quand même des musées qui partagent notre histoire, qui mettent en valeur les personnes qui contribuent à la valorisation de notre patrimoine et surtout le rôle des femmes.
Docteur Christella Cuisera, vous avez certainement quelque chose à ajouter là-dessus.
Ah oui, complètement. À l'heure où on entend le mot féminisme sur le continent, il y a quelque chose qui me dérange quand je vois que les références de notre jeunesse sont exogènes, que ce soit les Beauvoir, que ce soit tous ces grands noms, les suffragettes, ces grands noms occidentaux, alors qu'elle parlait d'une reine béninoise.
Tassirangbe.
Désolée si j'écorche le nom, mais justement, après la plupart des visites avec mes compatriotes, on discutait justement en disant, mais comment ça se fait que, par exemple, notre figure de lutte coloniale, anticoloniale, une dame qui s'appelle la reine Ina Mujahandi, aujourd'hui, elle n'existe pas dans aucun livre d'histoire, on ne l'apprend pas, alors qu'elle a quand même réussi à lutter jusqu'à ce que l'armée belge la capture et la tue, et aucun homme n'a fait ça. Donc, si on parle de restitution, c'est aussi d'aller dans ces espaces où ces personnes ont vécu. Moi, je vois même un modèle de musée itinérant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y aurait une bâtisse, c'est vrai, mais si on vous dit que telle personne a combattu ici, elle est tombée ici, on ne peut pas mettre ça dans un bâtiment. Donc, l'idée, c'est aussi de se recueillir. Et nous, on a une pratique qui, pour moi, ça résonnerait même à un autre niveau, notamment au niveau écologique. Quand on intronisait un roi, je pense qu'on plantait un arbre et aussi à son décès.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir discuté avec nous et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs d'être restés à l'écoute depuis le début. Merci.
C'est ainsi que se termine cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez les deux blocs diffusés sur notre site internet. Au micro, Bob Barry. Bonne continuation sur la DW Afrique.